Histoire des îles Marquises, de Akaka yo te henua inana, te fenua inata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kahanui, et bienvenue dans cette 13e émission.
Édition 2023.
Au cours des 18 mois que le pasteur Crook a passé dans l'archipel, il a vécu dans l'entourage de deux grands haka'iki de l'époque. Tainai, chef des Hema de Waitahuatahuata, et Kiatonui, chef des Teii de Taiohae, à Nukuhiva. Lors de notre dernière émission, nous avons essayé de comprendre ce qu'était un chef haka'iki, d'où provenait son pouvoir mana et qui en profitait autour de lui. Ce tapu, appliqué aux classes de la société Enana, c'était en quelque sorte un tapu institutionnel ou institutionnalisé, un tapu qu'on ne remet pas en question. Après avoir observé les êtres humains tapu, le moment est maintenant venu pour nous de voir comment, au jour le jour, le tapu marquait le rythme de la vie communautaire Enana. En effet, le tapu est la première manifestation du mana du haka'iki. Sous le titre « Modèle et métaphore », voici des extraits du chapitre que Greg Denning consacre au tapu, aux pages 94 et suivantes de sa réflexion. Le tapu était la métaphore centrale de la culture Enata. C'était le principe de base à partir duquel s'organisait l'environnement physique, l'espace vital des personnes, les classes sociales, les activités, les événements et la conception du temps dans leur culture. Le tapu était le principe constitutif qui donne à toute chose un sens face auquel le doute était impensable. Tapu était le message codé de la culture Enata. C'était une idéologie ayant pour origine les relations issues des moyens de production de la société Enata. C'était le mot par lequel les Enata décrivaient leur classe sociale. Et moi je rajoute que c'est donc la gestion des ressources naturelles qui est à l'origine du tapu. Le rôle essentiel du chef consistait à s'arranger, à organiser les récoltes pour que tout le monde puisse avoir à manger. À commencer par lui-même et son clan familial, bien entendu. En quelque sorte, il se posait la question de quoi disposons-nous pour vivre bien et comment le gérer au mieux. C'était une gestion durable des ressources, bien avant l'existence du terme en ce sens. En écho à ces lignes, dans « Vie quotidienne aux îles Marquises 1797-1842 », Dominique Pechberti nous expose le résultat de son travail de recherche sur la société Enana de cette période-là en montrant qu'elle fonctionnait suivant la règle du hoko échange. On reçoit, on donne, on distribue. Comme nous venons de le voir, dans un environnement où tout était précaire, le chef était le coordonnateur de la distribution des biens de consommation qu'il collectait et redistribuait selon des axes
régis par le tapu au bénéfice de la classe tapu.
Quels étaient donc les différents types de tapu? Il y avait d'abord le tapu sur les maisons et autres lieux. Celui qui nous en parle le mieux, c'est encore Crook à la page 68 de son journal.
Tous les hommes de la classe tapu ont des maisons tapu où manger séparément des femmes. Toute famille, si pauvre soit-elle, qui va à la pêche ou se rend dans un endroit inhabité pour toute autre raison, construit immédiatement une maison tapu dans laquelle aucune femme n'a le droit d'entrer. Dans les lieux de résidence habituels, la maison tapu est généralement élevée sur une terrasse pavée paipai, dont les limites ne peuvent être franchies par les femmes, ni même par des hommes de la classe tapu générale, si cette habitation appartient à une personne de la classe tapu supérieure, c'est-à-dire celle des chefs et des taua et des guerriers. Les hommes se retirent dans ces maisons tapu avant un voyage ou une expédition contre des ennemis ou quand ils sont en train de travailler sur leurs armes, leurs ornements, leurs tambours, leurs outils. La durée du tapu particulier auquel ils sont soumis à cette occasion peut varier d'un jour à une semaine. Pendant cette période, ils ne doivent ni entrer dans la maison d'une femme, ni fréquenter les femmes en aucune manière. De même, il est interdit à quiconque ne partageant pas leur statut temporaire de pénétrer dans leur maison. Dans les maisons tapou, on range aussi les ustensiles tapou par leur usage ou ceux qui le sont devenus accidentellement. Les maisons tapou utilisées pour les festins mao sont généralement près d'un enclos tapou, dit me'ai, emplacement où sont gardés les morts, et leurs limites sont signalées par une corde tapou, une corde de tapa blanc. De semblables lieux reçoivent les corps des victimes sacrifiées aux etoua, aux divinités, qui ne sont pas mangées même par les prêtres. Lorsque le tapou porte sur le lieu des festins rituels ou mortuaires pendant lesquels on boit le kava, les femmes y sont interdites et seuls les hommes peuvent entrer dans les cases spéciales élevées sur des paipai à une hauteur de 2 mètres. Regardons maintenant le tapou sur le corps lui-même. Toujours sous le titre de modèle et métaphore, Greg Denig continue sa réflexion sur le tapou. Et voici ce qu'il dit à propos du corps humain. En définitive, c'était la personne individuelle qui était tapou, à l'abri de toute agression illicite. La puissance de la personne humaine, son mana, avait 2 mystérieux sièges, la tête et le sexe. La société avait donc organisé la protection de ces 2 parties du corps humain. Tout individu, homme ou femme, enfant ou adulte de la classe sociale tapou ou kikino, jouissait d'un même droit d'égard de la société, qui variait selon son rang social, car chaque personne avait son statut social défini. C'est ainsi que le tapou de la classe des chefs prévalait de beaucoup sur celui de la classe commune, kikino. Mais chaque personne était pareillement vulnérable en cas d'agression violant le tapou de la tête ou de la région pubienne. Le tapou attaché au sexe peut nous étonner, puisque tous les témoignages nous rapportent que les enana et nata vivaient nus. Mais ces mêmes témoignages nous disent aussi que si les corps étaient nus, les sexes ne l'étaient pas. Le hami, c'est le pain traditionnel des hommes marquisiens. Il est roulé autour de la ceinture en passant entre les cuisses. La partie pendant par derrière se nommait hi-hi-hi-hi ou to-ve-o. Et celle pendant par devant, ko-tapu, ce qui signifie côté tapu. On ne peut pas être plus clair. Selon la classe à laquelle ils appartenaient, les hommes portaient des pagnes hami de différentes tailles et de différentes qualités de tapa. Grâce au témoignage du pasteur Crook, nous savons aussi que les hommes de Tahuata et Nukuhiva avaient le prépuce ligaturé. La super-incision du prépuce, encore pratiquée dans l'archipel, n'est pas une circoncision qui, elle, prive l'homme de son prépuce. Si elle libère le gland, la super-incision ne prive pas l'homme de la peau de son sexe que les anciens marquisiens étiraient et enveloppaient de tapas ou de feuilles odorantes puis attachaient, cachant ainsi cette partie intime. En 1804, lors du passage de l'expédition russe qui passera 12 jours à Nukuhiva, le commandant Krusenstern confirmera cette tradition dans son journal. De même pour le commodore Porter, en 1813, lors de son séjour de 3 mois à Taiohae. Concernant les femmes, si le haut du corps était le plus souvent dénudé, elles aussi portaient un pagne de tapa autour des reins. Il se nommait Ka-eu, Eu, Eu. C'est ce pagne fragile qu'elles portaient au-dessus de leur tête attaché à un bâton quand elles nageaient vers les navires. Et dès qu'elles étaient à bord, elles remettaient ces pagnes afin de cacher leur intimité. Elles ne les enlevaient ensuite qu'en privé. Afin d'éviter d'endommager le tapa dans l'eau de mer, il arrivait fréquemment que les femmes nagent vers les navires étrangers en portant des paquets de feuilles de cordéline-ti dont elles entouraient leur taille à leur arrivée au sec. Ces tenues de feuilles étaient aussi portées lors des bains de bord de mer. Quelles qu'aient été les raisons authentiques de cette coutume, le résultat prouve que cette partie du corps n'était pas destinée à être vue par les yeux de tout le monde. Elle était donc frappée d'un tapou visuel. Et c'est Krusenstern qui nous en donne un autre élément de preuve. Un soir, que des femmes nageaient près du navire, à l'autre bout du pont, un marin a défait son pantalon pour uriner dans la mer. Témoin visuel de la scène, Krusenstern décrit l'indignation et les hurlements des femmes à la vue de cet appendice habituellement réservé aux rapports intimes. Dans certains cas, les femmes représentaient un danger et une menace pour les enata. Le flux menstruel était une souillure. Leurs vêtements, les choses à leur usage, leur présence même pouvait être cause de souillure, ce qui n'était jamais le cas pour les hommes. Elles pouvaient jeter une malédiction sur un objet en l'interpellant par le nom de leur sexe, le plaçant dans le repli de la cuisse de la même manière que cet objet pouvait être investi du tapou en le plaçant sur sa tête ou en le nommant par sa tête.
Tout à l'heure, avant la chanson, nous avons parlé de la tête des femmes. Greg Denning continue à la page 83 de sa réflexion sur le rôle et sur l'importance de la tête dans la civilisation ancienne marquisienne. Le véritable centre géographique de la personne et du monde était la tête. La tête de tout individu, homme ou femme, enfant ou adulte, kikino ou tapu, était l'objet du respect de tous. Ce respect n'était inaliénable que si l'individu était déchu personnellement ou socialement. Les droits, les marques de respect et l'étiquette variaient en fonction du rang social. Le respect de la tête du chef dépassait de loin celui dû à tout autre individu. Que le hakaiki considère tel fruit de l'arbre à pain, tel cochon, telle maison ou telle pirogue comme sa tête, l'objet devenu extension de sa personne partageait aussitôt son tapu. Le crâne du chef était une relique des plus précieuses. Tout objet qui a recouvert une tête ou est passé au-dessus doit être conservé dans une maison tapu, ou bien être détruit pour éviter sa profanation, qui exposerait à des maladies mortelles la personne sur la tête de laquelle il était passé. Toute chose qui passe au-dessus de la tête d'une personne tapu, quelle qu'elle soit, ne peut plus servir à son usage habituel. Si c'est une natte, okimoeka, personne ne doit plus jamais passer ni s'allonger dessus. C'est aussi le cas du tissu tapa, des coiffes qui ont été portées sur la tête, des ventailles et des cannes qui ont subi le même sort, même d'une feuille d'arbre tombée sur la tête ou d'un cheveu qui tombe. Éloignés d'un lieu tapu, les enana préfèrent avaler des cheveux qui tombent plutôt que de les laisser à terre où quelqu'un pourrait passer par-dessus.
Ou bien s'en servir pour jeter un sort ou confectionner un sortilège nanikaha.
C'est la même raison qui les pousse à manger leur pou. La règle s'étend même à tout objet passant au-dessus d'un autre objet porté sur la tête de quelqu'un. Seuls les réserves de victuailles de nourriture suspendues au-dessus des têtes
sont exclues du tapu par convention sociale.
Dans l'introduction à ces émissions sur l'histoire des marquises, j'avais expliqué pourquoi la tête était si tapu. Tout simplement, c'est la partie du corps qui est la plus proche des dieux, la plus proche du ciel. Donc forcément, la plus tapu. Faut pas chercher tellement plus loin. Pour les marquisiens, c'était ça. Il fallait protéger cette partie du corps qui était la plus proche des dieux.
L'espace entre les hommes et les dieux était sacré, et rien ni personne ne devait s'interposer entre eux, de peur de briser le lien qui les unissait.
Comme nous l'avons déjà vu, cet aspect sacré tapu de la tête, c'est aussi ce qui explique la hauteur des terrasses paipai et l'agencement intérieur de la case Haehyamoe. La hauteur de la terrasse et la largeur du pan du toit arrière qui recouvrait entièrement la maison interdisaient à quiconque de pouvoir passer au-dessus de la tête des gens qui dormaient à l'intérieur. C'est aussi la raison pour laquelle, au début de l'évangélisation, les enana refusèrent d'être enterrés. La seule idée qu'on puisse passer au-dessus de leur corps leur était insupportable. En 1863, avant sa mort, Te Moana, chef des Teihi de Taiohae, avait demandé à être enterré sur la terre Vihenua, qui domine la baie et le Tohua Temehea,
de nos jours,
parce qu'à cet endroit, il y avait une petite grotte dans laquelle on a déposé son cercueil et qu'on a ensuite recouverte d'un monument funéraire. Mais on ne pouvait pas passer au-dessus de son corps. Même si dans les années 1842-1850, Max Radiguet raconte que deux très jeunes marquisiens proches des Français avaient été enterrés à Kapehi,
comme nous l'apprennent les archives de l'évêché, il faudra attendre le mois de mai 1855 pour voir Te Moana ouvrir à Pa'ahatea, le cimetière qui portera le nom de cimetière Te Moana, afin d'y enterrer sa fille, Rutovika Teikiahutini, qui était aveugle, qui avait été baptisée avec lui en juin 1853 et qui était morte le 22 mai 1855.
Voyons maintenant comment les mains peuvent aussi être concernées par le tapu. Une natte devient tapu si un homme passe sa main au-dessus. Tout ce qu'un homme prend dans sa main devient d'un usage restreint. Et à moins que l'objet n'ait une grande valeur, on le met de côté et on ne s'en sert plus pour éviter qu'il soit profané. Faute de quoi, les conséquences peuvent être désastreuses, allant jusqu'à la mort du coupable. Ça, c'est aussi Greg Denning qui le dit. Voyons maintenant les aliments. Toujours selon Greg Denning. Les catégories d'aliments tapu pouvaient varier d'île en île et de vallée en vallée. Les kaioi et les domestiques mâles des femmes pouvaient partager la nourriture de ces dernières, mais, pas plus qu'elles, ils ne pouvaient se servir aucun aliment ni aucun ustensile appartenant à une personne de la classe tapu. Les fruits à pain, mei, la plupart des poissons, le taro, les ignames et la popoi étaient mangés par tous, sans distinction, à moins qu'ils n'aient été incidemment rendus tapu.
était considéré comme tapu la viande de cochon, dont la tête était réservée aux tawa, ainsi que les bananes, les bonites, les pieuvres et la tortue. Aucun de ces aliments destinés aux personnes de la classe tapu ne pouvait être mangé par un membre de la classe inférieure kikino. Les poulets, les bananes, les thons, les pieuvres, les tortues étaient réservés aux hommes. La chair humaine était interdite aux femmes. Le porc et certains autres aliments pouvaient être consommés par les femmes dans certaines occasions, en particulier certaines fêtes koika. Le poil roux d'un porc signifiait qu'il était réservé au hakaiki. Personne ne pouvait manger les aliments destinés à quelqu'un d'une classe supérieure à la sienne, ni ceux qui avaient été cuits sur son feu, ni déposés dans sa gourde ou dans son panier, ni même ceux qui étaient entrés dans la maison réservée au repas. De même, les ustensiles dans lesquels la nourriture d'une personne de rang supérieur avait été déposée ne pouvaient être employés par un inférieur. Les victuailles devenaient tapu non seulement après être passées au-dessus de la tête d'une personne, mais aussi lorsqu'on les avait portées sur un terrain tapu ou un chemin interdit aux femmes. Voyons maintenant les mots. Les mots avaient aussi pour les enata une importance vitale. Le nom était la personne. Le plus souvent, il était imposé par les grands-parents, et l'échange de noms était un procédé d'extension de la personne à laquelle on transférait son tapu et vice-versa. Il est à remarquer que dans les îles de la société, le tapu sur les mots pouvait s'appliquer à des vocables qui, devenus tapu suite à un usage royal restrictif, ne pouvaient plus être utilisés par le commun des mortels. L'exemple le plus flagrant étant le mot « o »,« vai », qui a dû être remplacé par le mot « ju pape » parce que un arii avait utilisé le mot « vai » de manière qui le rendait tapu. Voyons maintenant un genre de tapu très spécial qu'on appelle le « kahui ». Pour établir une propriété, les enata avaient une autre procédure appelée kahui. Un propriétaire pouvait interdire à quiconque de faire usage de certains aliments sur cette terre. Un kahui était signalé soit par une pièce de tapa blanc attachée à un cocotier, soit par un plan de kava. Le propriétaire d'un certain secteur de la mer pouvait décréter un kahui sur les poissons en fichant sur la grève une perche munie d'un tapa blanc. Le kahui n'avait pas de fonction sociale, il était impersonnel, c'était une affaire de propriété privée. Pour conclure, nous dirons que le tapu était un principe d'organisation de l'environnement physique et social des enata. Il définissait leur espace personnel, apportant un ordre et un sens à l'environnement général pour lequel ils avaient encore d'autres manières d'organisation. L'une d'entre elles consistait en un système de classification imposé au monde physique, par exemple les animaux. Tout ce qui était animal marchant sur la terre s'appelait puaka, tout animal volant dans les airs s'appelait manu, et tout animal nageant dans la mer s'appelait ika. L'autre manière, c'était leur vision du monde spirituel. Toute plante et tout arbre, tout phénomène naturel, prenait le nom de l'esprit ou du dieu qui l'habitait et qui en était le gardien et dont il était l'expression. Ce qui explique que chaque arbre important avait un nom, et que aussi, comme par exemple dans la baie de Taiohae, tous les 20 ou 30 mètres, le nom du lieu change, parce que chaque parcelle de terrain, délimitée par un ruisseau ou un gros rocher, avait besoin d'une appellation spécifique qui la différenciait des autres. Une autre troisième manière leur permettait d'expliquer leur monde, c'était l'observation de leur environnement et des signes qu'ils y détectaient dont ils avaient un déchiffrage spécifique. Et Greg Denning termine en disant « Fenua enata », c'était tout cela. Le tapu, les classifications, la relation aux esprits et à la lecture des signes, c'était la façon propre aux enata de concevoir leurs îles. Chers amis, nous voici arrivés au terme de cette première émission traitant du tapu au jour le jour. Ne manquez pas la suite de cette émission au cours de laquelle nous essaierons de saisir comment le tapu était imposé ou levé et comment l'arrivée des étrangers haoe qui ne respectaient pas le tapu a creusé une brèche dans la société traditionnelle. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci aux enfants du CSP de Hakahao, les Tetoiki CSP, pour leur chanson « Noteati Enana », version lente et beaucoup plus conforme au uta traditionnel chanté par le groupe de Tahuata le soir du dernier jour du Festival des Arts des îles Marquises qui s'est tenu en décembre 1999 sur le Tohua Kouewa à Taiohae, île de Nukuhiva. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf, kopo, K-O-P-O, ou sur mon Vini,
87 756 719. À bientôt à Pai, au Oahu.